sur l'info, le journal
avec MCM.
Les titres du journal vous sont présentés par Antoine Samoyo. Bonjour Antoine.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les chefs de police du Pacifique réunis en Polynésie toute cette semaine. La conférence du PICP s'ouvre ce midi pour évoquer les questions de coordination dans la lutte contre la délinquance dans le Pacifique. Vous entendrez le commissaire de la DSP François Perrault. Il prend aujourd'hui la présidence de cette conférence. Nous parlerons économie bleue également dans ce journal avec le forum organisé par le cluster maritime ce week-end. Thème retenu cette année, la question des infrastructures qui manquent en Polynésie. Vous l'entendrez. Et puis notre invité ce midi, c'est la ministre des Solidarités, Théa Frogier. Nous parlerons évidemment de la réforme de la protection sociale généralisée, cette fameuse PSG. À tout de suite.
Et on commence avec les policiers du Pacifique qui se réunissent à Tahiti cette semaine.
C'est en effet aujourd'hui que s'ouvre la 45e conférence des chefs de police du Pacifique. Une centaine de personnes issues des 21 pays membres est attendue à Tahiti pour l'occasion. L'occasion justement pour ces chefs de police de resserrer les liens, mais surtout d'échanger et de développer des stratégies régionales pour lutter contre la délinquance. Un travail qui a déjà porté ses fruits, comme l'explique le commissaire divisionnaire François Perrault. C'est le chef de la DSP et il est au micro de Faïté Ourage-Ipambrin.
On travaille ensemble pour parfaire des liens et puis essayer de lutter ensemble contre, par exemple, la criminalité organisée.
Est-ce que c'est déjà arrivé ça ?
Oui, bien sûr. Très souvent, on est en échange. Les collègues vont me signaler quand quelqu'un de douteux a fait part de son intention de venir sur le territoire polynésien. Un individu qui a fait des trafics de fonds ou qui est connu comme étant un agresseur sexuel ou autre, on a ce signalement. Ça nous permet éventuellement de s'opposer à l'entrée ou de le suivre pendant son déplacement, de voir un peu qui il est, etc. C'est effectivement très précieux d'avoir ce genre de renseignements.
Et il faut noter que cette réunion des chefs de police n'est composée que d'hommes. Les femmes œuvrant dans le secteur se réuniront donc de leur côté. L'occasion pour elles d'échanger sur leur position, considérée comme délicate ou même mal vue dans certains pays du Pacifique.
Par exemple, sur le fait que les femmes ne conduisent pas dans certains pays, et sur l'appel au secours, j'ai utilisé cet argument lors de la conférence de l'année précédente pour dire « mais comment ça se passe quoi ? Ça, c'est une situation bloquante. » Alors qu'on a un appel au secours et un collègue qui est un peu concerné par la question a dit « ah oui, j'avais pas pensé à cet aspect-là des choses, il faut effectivement qu'on y réfléchisse. » Donc du coup, je me suis dit « j'ai pas perdu mon temps. » Voilà, on a peut-être fait passer un message positif.
D'économie maritime maintenant avec le pays qui manque d'infrastructures.
C'est le constat du forum de l'économie maritime qui s'est ouvert vendredi en présence des services des représentants du pays, du gouvernement, de l'État et des maires ainsi que des professionnels du secteur maritime. Les infrastructures, pièce maîtresse de toute stratégie de développement, c'était le thème de cette troisième édition organisée par le cluster maritime de Polynésie. Un manque d'infrastructures qui pèse dans le développement de l'économie bleue comme l'explique Gérard Sioux, le président du cluster, interrogé au micro de Lucie Rabréau.
Il y a un manque, effectivement, il y a un manque de gestion de ces infrastructures, il y a une définition des rôles de chacun qui doivent être clairs, et c'est pour ça qu'ils sont là également pour poser ces questions. Mais surtout, effectivement, nous avons des débarcadères, il y a beaucoup d'infrastructures dans les îles, des petites infrastructures, mais elles ne sont pas en adéquation pour nous par rapport au potentiel que l'économie bleue peut apporter dans ces îles et peut apporter à la Polynésie.
Et ce manque d'infrastructures a aujourd'hui des répercussions concrètes. Gérard Sioux donne l'exemple des îles Marquises où les voiliers n'ont pas toujours d'espace dédié.
Les îles des Marquises ont peu d'infrastructures maritimes. À chaque arrivée, à chaque saison d'arrivée des voiliers, toute la baie est complètement occupée. Et d'ailleurs, le territoire a dû faire prendre un texte pour interdire certaines zones de mouillage. Ça veut dire qu'on déplace les voiliers, on dit « vous venez pas ici, allez ailleurs », parce que ici, c'est réservé à un passage. Mais s'il y a des infrastructures d'accueil, des marinas, ça apporterait énormément de ressources et de revenus à ces îles et ça permettrait effectivement de développer d'autres activités.
Et sachez que les conclusions de ces réflexions et débats vont être présentées aujourd'hui aux participants du forum. Nous reviendrons donc dans nos éditions de demain.
En bref, l'emploi continue de baisser en juillet.
L'Institut de la Statistique de l'Emploi continue de progresser. C'est le chômage qui baisse, pardon. L'Institut de la Statistique vient de publier ses derniers chiffres de l'emploi salarié marchand pour le mois de juillet. Des chiffres qui progressent de plus 0,5%, toutes catégories confondues. Dans le détail, l'emploi a progressé principalement dans l'industrie, l'hôtellerie-restauration et les services. En revanche, les chiffres stagnent dans le commerce et sont négatifs dans la construction. L'emploi dans le secteur de la construction qui chute d'ailleurs depuis le milieu de l'année 2015.
On parle sport à présent avec les principaux résultats du week-end.
Gros succès encore pour le Red Painapuam Orea. 1400 athlètes étaient inscrits pour ces deux courses. Cédric Van et Taïva Izal s'imposent sur la Toa de 18 km en 1h59 minutes. Et le duo Takei Schmidt et Sophie Boukrouma remportent la course Alea Rea en 31 minutes. Mais il y avait également du Vaas week-end avec la Tetiaroa Royal Race de 120 km sur deux jours. Et c'est le team OPT qui s'impose au classement général. EDT termine deuxième et Touboua est troisième, juste devant Paddling Connection.
On marque une courte pause dans ce journal, puis nous revenons avec notre invité, la ministre des Solidarités.
Radio 1, premier sur l'info, l'invité.
Et on reprend ce journal avec notre invitée, la ministre des Solidarités, Théa Frogier.
Et je vous le disais en titre, on va bien évidemment parler de la réforme de la PSG, la protection sociale généralisée. Alors on a reçu sur cette antenne les syndicats CSTPFO, CSIP et ATIMOA, mais aussi le patronat avec le MEDEF sur ce dossier brûlant de la réforme de la PSG. Aujourd'hui, c'est la ministre en charge de cette réforme qui nous accompagne. Bonjour Théa Frogier.
Yorana.
Alors la semaine dernière, en ouverture de la session budgétaire, le président du pays, Édouard Fritch, a confirmé que la réforme de la protection sociale serait bien lancée et qu'elle serait menée sur deux ans. Je le disais en titre et je le disais il y a quelques instants, on a beaucoup entendu les syndicats demander de nouvelles discussions avec le pays. Finalement, il va y avoir un premier train de réforme et à la fois de nouvelles concertations, c'est bien ça ?
Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que lorsque le président parle de la réforme de la PSG qui sera menée sur deux ans, on parle bien de l'ensemble de la protection sociale généralisée. Pour l'instant, les esprits se sont beaucoup focalisés sur, et les échanges et ateliers qui se sont tenus se sont focalisés sur l'assurance maladie et les retraites, donc le risque santé et le risque vieillesse. Mais il y a également d'autres branches pour lesquelles donc les discussions n'ont pas été menées et qui sont également intégrées. Et lorsque le président parle de l'ensemble de la protection sociale généralisée, il vise bien les autres branches également qui doivent faire
ces autres branches, c'est par exemple la question de la prise en charge du handicap.
Exemple, la prise en charge du handicap, puisqu'aujourd'hui, donc, pratiquement l'ensemble des dépenses ou des subventions, donc, au niveau des centres médicaux et socio-éducatifs, ainsi que tout ce qui est allocation pour les handicapés, relève donc du régime de solidarité. Et cela, combien même l'handicapé adulte aurait un travail, il pourrait donc relever et un salarié comme un autre. Voilà.
Alors très bien, sur la mise en place de la réforme, en tout cas, pas de problème de ce côté-là, même avec les élections, parce qu'on a pu entendre notamment Atia et moi nous dire que cette réforme ne se ferait pas parce qu'on entrait dans des années électorales. La réforme, elle va débuter dès maintenant.
La réforme, elle va débuter dès maintenant avec effectivement donc une répartition sur deux ans parce qu'on a encore quelque peu de travail et puis on va dire également deux temps en ce qui concerne donc l'assurance maladie notamment.
Est-ce que on sait déjà sur quoi porteront les premières mesures de la réforme ?
J'allais dire que les premières mesures, notamment puisqu'on a beaucoup parlé de l'assurance maladie et donc des retraites, en ce qui concerne l'assurance maladie, dans un premier temps, j'allais dire qu'on va pas innover, on va surtout reprendre des recommandations qui étaient issues du rapport Boulier, qui étaient issues, en fait, toutes les analyses qui ont pu être réalisées sur notre branche assurance maladie et sur le retour à un équilibre du financement va être menée, à savoir donc des actions sur tout ce qui est dépenses. On parle beaucoup de faire des économies puisqu'il n'est pas question, on va tenter dans toute la mesure du possible de pas alléger encore plus les cotisations sociales. Donc faire des économies, avoir des actions sur les recettes aussi pour pouvoir véritablement arriver à un équilibre, donc ne serait-ce que pour la branche assurance maladie.
Théa Frogier, sur la question des retraites, on entend aussi beaucoup du côté des syndicats le fait qu'il n'y a pas si urgence que ça, qu'on peut attendre quelques années. Est-ce que véritablement on va dans le mur pour 2017? En tout cas, est-ce qu'on entame les réserves de la CPS pour le financement des retraites?
Alors effectivement, je vais vous donner des chiffres, je pense qu'ils sont suffisamment parlants. En 2008, les réserves se montaient à un peu moins de 62 milliards, 61 milliards 690 millions. En 2015, les réserves donc se montent à 32 milliards 853 millions, sachant que le montant qui est versé en 2016 pour les retraites donc se monte à 32 milliards 940 millions.
Ça veut dire qu'on est au-dessus même des réserves pour l'instant.
Des réserves à fin 2015.
Est-ce que, TF Roger, vous avez reçu la proposition de l'intersyndicale qui donc s'est réunie, on le rappelle, sans Atia Imoua, qui avait menacé d'une grève générale et qui a fait des propositions. Ils devaient vous soumettre leurs propositions fin juin. On les a reçues ici. Ils nous en ont parlé. Est-ce que vous avez reçu ces propositions? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, nous avons... J'allais dire formellement, officiellement, nous n'avons pas reçu, on va dire, par courrier les propositions. Hein. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, pendant tout le mois de juin, nous avons beaucoup échangé. Et effectivement, lors des dernières séances, par exemple, sur l'assurance maladie, ils nous ont fait une... ils sont venus nous présenter les recommandations et donc leurs propositions, que ce soit pour l'assurance maladie, que ce soit pour la retraite. Mais lorsque je parle de... nous n'avons pas reçu formellement, c'est que, en définitive, il devait nous le transmettre officiellement, en tout cas, transmettre au président de la Polynésie française.
Vous n'avez rien reçu d'autre que la présentation qu'ils ont fait, en fait.
Voilà, mais qui est très complète. J'ai insisté là-dessus.
Parmi ces propositions, les syndicats demandent la prise en charge, par exemple, la prise en charge des dépenses de l'hôpital par le pays. Est-ce que c'est réaliste, ça?
Alors, ce qu'ils demandent,
on rappelle que c'est 11 milliards de francs environ.
Voilà, ce qu'ils demandent, c'est en fait que les salaires, donc la rémunération du personnel des agents donc publics du CHPF soient pris en charge effectivement par le pays, à savoir c'est à peu près 11 milliards, un peu moins de 12 milliards. Alors là, je vais dire que c'est une opinion personnelle, je tiens à le préciser. Pour moi, il faut revenir à la définition et au principe même d'une protection sociale généralisée et du principe, on va dire, des cotisations. Pour moi, nous sommes dans un schéma pour les régimes contributifs. Hein. Nous sommes dans un schéma où nous prenons une assurance santé. Le risque santé, donc nous prenons une assurance et c'est pour ça que nous cotisons, que nous tombions malades ou pas. Nous avons donc cette chance de pouvoir, effectivement, lorsqu'on en a besoin, avoir cette prise en charge donc par l'assurance maladie. En l'occurrence, cette cotisation donc vient financer l'ensemble du schéma de l'offre de soins, qu'il soit public, en partie, en tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois, donc vient financer le système de soins, l'offre de soins du public et du privé. Et je pars du principe que donc, dans ce cadre-là, en ce qui concerne l'offre de soins du CHPF, les agents qui contribuent à cette offre de soins, il est normal qu'ils soient financés au titre de la protection sociale générale.
Par les
cotisations ou en tout cas par les contributions de notre PSG.
Merci beaucoup TF Roger. Donc on va attendre évidemment le premier train de mesure et puis évidemment aussi les prochaines concertations, les prochaines discussions avec tous les partenaires sociaux. Dernière petite question pour vous. On parle beaucoup du remaniement en ce moment et notamment de ce rapprochement entre les ministères de la Santé et de la Solidarité. TF Roger, est-ce que vous serez toujours présente pour porter cette réforme même après le remaniement, cette réforme de la PSG?
Alors, ça c'est une question. Bon, j'allais dire que ce remaniement, on l'attend depuis déjà un certain temps. Bon, le président l'a annoncé, donc il y aurait un remaniement sous 10 jours. Maintenant, la teneur même des portefeuilles, de la reventilation des portefeuilles, je suis incapable de vous répondre là-dessus. En tout cas, si je conserve le portefeuille, bien sûr, de en charge de la réforme de la PSG, il me reviendra la tâche de la faire aboutir. Si je la perds, je sais que le successeur, en tout cas, il pourra compter sur moi pour l'aider dans la mesure du possible.
Mais pour l'instant, vous avez
aucune information. Le grand chef, c'est le président.
Merci beaucoup, TF Roger, ministre des Solidarités, en charge de la réforme de la protection sociale généralisée.